Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir un petit peu à notre vie chrétienne. Nous avons l'habitude de nous référer au moment où le Seigneur nous a sauvés. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je connais des chrétiennes à leur prière qui souvent remercient le Seigneur parce que le Seigneur les a sauvés. Le Seigneur leur a pardonné leurs fautes. Le Seigneur leur a donné la vie éternelle. Le Seigneur les a fait naître de nouveau. Et c'est vrai que cette expérience-là est une expérience fondatrice hein, pour toute notre marche chrétienne, pour toute notre vie chrétienne. Nous avons débuté une nouvelle vie avec le Seigneur. Et le début de cette nouvelle vie est une expérience pour plusieurs inoubliable. Pour certains, vous êtes devenu chrétien, puis vous ne vous souvenez peut-être pas du moment de votre conversion. C'est pas très important. Moi, je me souviens pas du moment où je suis venu au monde. Ma mère s'en souvient plus que moi, mais ça ne m'empêche pas d'être en vie. Et même si nous n'avons pas une conversion radicale, du moment que nous appartenons au Seigneur, c'est ça qui est important. Mais toujours est-il, nous mettons souvent l'accent sur la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, sur ce moment où le Seigneur nous a sauvés, ou ce moment où nous avons compris que nous appartenions à Dieu. Par contre, dans le Nouveau Testament, le Seigneur met aussi l'accent sur la vie chrétienne, pas simplement sur la conversion, pas simplement sur ce moment initial dans notre vie chrétienne, mais la Bible, le Nouveau Testament met souvent l'accent sur la marche chrétienne. Déjà dans l'Ancien Testament, on disait que Abraham marchait avec Dieu, vous vous souvenez ? Donc Abraham était en communion avec Dieu, et c'est vrai que le Nouveau Testament nous présente la vie chrétienne aussi comme une marche, comme une communion avec le Seigneur Jésus. Et Paul, dans Colossiens au chapitre 3, va nous parler de cette nouvelle vie et comment nous sommes appelés à vivre cette nouvelle vie. Il ne suffit pas de se référer au moment de notre conversion, mais ce qui est important aussi, c'est de marcher avec le Seigneur aujourd'hui. Alors, comment marcher avec le Seigneur ? En d'autres termes, la question que vous voyez à l'écran est un petit peu formulée différemment, mais ça veut dire la même chose. Vis-tu l'Évangile ? C'est-à-dire, est-ce que tu vis cette nouvelle vie conformément à cette nouvelle vie que tu as reçue ? Vous savez ? C'est un peu étrange quand quelqu'un change de pays et arrive dans un nouveau pays, est reçu comme immigrant, reçoit sa nouvelle nationalité, puis continue à vivre de la même manière qu'il vivait dans son pays d'origine, sans vouloir apprendre une nouvelle langue, sans changer de façon de vivre. Même si on est immigrant et qu'on arrive ici, on va garder certaines habitudes de notre vie passée, mais notre vie va changer, c'est normal, elle va changer. Dans le concret, du moment que nous avons fait le changement, nous allons vivre le changement une fois que nous l'avons fait. Une fois que nous arrivons, par exemple, au Canada, ben nous allons vivre cette vie nouvelle qui caractérise ce changement de vie. Et dans la vie chrétienne, c'est un petit peu la même chose. Et la question suivante est pertinente parce que, bien souvent, nous nous posons la question quant à savoir si en tant que chrétien, nous vivons réellement en tant que chrétien. Est-ce que nous vivons comme tel ? Est-ce que nous vivons conformément à ce que nous sommes ? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous avons vécu une expérience transformatrice qui nous a bouleversés de fond en comble, qui a changé complètement notre nature. Puis maintenant, comment on vit ? Est-ce que nous vivons véritablement conformément à ce changement fondamental qui s'est opéré dans notre vie? Et la question que vous voyez à l'écran, vis-tu l'Évangile, est donc pertinente encore pour nous aujourd'hui. Alors, l'épître aux Colossiens, c'est une épître qui nous présente le thème de la centralité de Jésus-Christ. Et premier chapitre, vous le connaissez très bien, tout a été créé par Jésus-Christ, Jésus a la prééminence. Le chapitre 2 parle de croissance aussi dans le Seigneur. Et le chapitre 3, bien, c'est un encouragement à vivre cette nouvelle vie. Et c'est ce que nous allons regarder et nous allons le lire par bloc, par petits blocs, au fur et à mesure que nous avançons dans la méditation de ce passage. Alors la question est posée pour nous ce matin, vis-tu l'Évangile ? Vous allez me dire, ah ouais, je vis l'Évangile. Ouais, mais peut-être que vous le vivez, mais peut-être pas vraiment. Ou peut-être pas assez. Et de toute manière, même si vous vivez l'Évangile aujourd'hui, vous avez besoin d'encouragement, nous avons besoin d'encouragement pour persévérer dans cette vie de l'Évangile. Alors pour vivre l'Évangile, il est impératif de comprendre notre statut dans le Seigneur. Et c'est ce qui nous est décrit dans les versets 1 à 4. Si je ne comprends pas vraiment qui je suis, je ne vivrai pas en rapport avec ma nouvelle vie. Mais si je comprends quelle est ma nouvelle vie, ben, je vais probablement davantage vivre l'Évangile. Alors, comprendre notre statut, comprendre notre identité, en quelque sorte, c'est ce que les versets 1 à 4 abordent. On va lire ensemble. On va lire dans la Bible du Semeur. Je ne sais pas si vous avez la Bible du Semeur ou la Bible Second. Mais vous êtes aussi ressuscité avec Christ, verset 1er. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, dans la gloire. Alors ces versets décrivent ce que nous sommes dans le Seigneur. Okay ? Par exemple, les versets 1 et 2 nous présentent une certitude accompagnée de deux conséquences. Alors, quelle est la première certitude que nous voyons au verset 1er ? Vous êtes aussi... Ah, les autres, ils dorment déjà à cause du mariage de hier. Vous êtes ressuscité. C'est intéressant, hein ? Alors que nous allons mourir, alors que nous sommes des êtres mortels, le texte nous dit, nous sommes ressuscités avec Christ. C'est déjà fait, tout est fait, et à notre mort, ben, nous allons en présence du Seigneur. Donc l'apôtre Paul nous dit, considérez-vous comme ressuscités avec Christ. Alors je ne sais pas si vous considérez comme des gens ressuscités. Peut-être que, selon l'âge que vous avez, vous avez toute la vie devant vous, vous avez l'énergie devant vous, votre intention c'est d'élaborer des plans, de les réaliser, d'exprimer toute votre énergie, et puis vous ne pensez pas vraiment à la résurrection. T'sais? Peut-être quand vous serez vieux comme Luc et moi, vous penserez peut-être davantage à la résurrection, en disant « ouais, on commence à avoir des bobos ». Les choses vont pas s'arranger au fur et à mesure que les années vont passer, n'est-ce pas ? Et peut-être que là, vous pensez davantage à la résurrection, mais vous pensez à la résurrection à venir. Mais est-ce que vous vous considérez déjà comme ressuscité ? Vous êtes revenu à la vie avec le Christ. Vous êtes mort avec lui, puis vous êtes ressuscité avec lui. C'est déjà fait, ça, tu sais. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire, est-ce que vous réalisez l'expérience par laquelle vous êtes passé, vous êtes des ressuscités. Et l'apôtre va un petit peu plus loin, et nous dit, si vous comprenez que vous êtes ressuscité avec le Christ, eh bien, recherchez les choses d'en haut, et au verset 2, tendez vers les réalités d'en haut. Alors, ce sont deux impératifs. Et quand Paul donne des impératifs, ce n'est pas des souhaits, ce n'est pas des options. L'apôtre Paul, il nous demande de rechercher et de tendre vers les réalités d'en haut. Alors, rechercher les réalités d'en haut. Ça, c'est vraiment intéressant parce que parfois, des gens partagent des expériences où ils ont fait des grandes découvertes. C'est peut-être quelqu'un, à un moment donné, des problèmes interpersonnels, il fait un travail sur lui-même, puis à un moment donné, il découvre certaines choses le concernant, tu sais. Il a cherché quelque chose, il y a une réalité qui s'est ouverte devant lui. Tu sais. Il y a plein de réalités qui nous sont étrangères. Tu sais. Je veux dire, ce matin, moi, j'étais à Joliette pour aller prêcher à Joliette, et puis... Ah, on a quitté la 25 à un moment donné pour rouler un petit peu dans les rangs, pour aller jusqu'à l'église. Puis on traversait des champs, tu sais. Puis ma femme me disait, ah, j'aimerais ça, moi, habiter dans une petite ferme, tu sais. Et puis, vivre la réalité de la ferme. Puis moi, je pensais à ça, je me disais, ouais, la réalité de la ferme, moi, je connais pas trop ce que c'est, tu sais. Puis elle me disait, ma femme, elle me disait, ouais, il me semble que ce serait bien, on serait dans la nature, tranquille. Ouais, j'ai dit, ouais, peut-être tu vas être occupé, c'est une petite ferme, là, pour plus que tu le penses, là, tu sais. Elle me dit, ouais, mais on prend juste deux poules, tu sais, pour avoir des œufs, puis sans trop faire le travail de fermier, tu sais. Puis je pensais à la réalité d'un travail de fermier. Pour moi, je suis étranger à ça. Ah, je connais un petit peu, j'ai vu des films, comme tout le monde. Mais je ne connais pas vraiment cette réalité-là, tu sais. Puis il y a plein de réalités qu'on ne connaît pas dans la vie. Et les réalités spirituelles sont des réalités que l'homme naturel ne connaît pas. Et même quand nous devenons chrétiens, la Bible nous encourage à rechercher ces choses-là. Parce que ce n'est pas naturel sur cette terre d'être en contact automatique avec les réalités célestes. En fait, il y a tellement de choses à s'occuper dans notre vie, nous sommes tellement pris par toutes sortes d'activités que nous avons du mal à être en communion avec le Seigneur. Et pourtant, le Christ habite en nous, tu sais. Mais malgré ça, nous avons du mal. Et c'est pour ça que Paul nous dit, ben, il faut rechercher. Puis dans ce monde où il y a tellement de possibilités devant nous, où on a tellement peur de manquer plein de choses, tu sais, on a des difficultés à chercher les choses d'en haut. Je ne sais pas, si vous voulez vous abonner à Vidéotron ou à Bell, puis que le vendeur vous dit, voilà, écoute, tu as tel plan avec telle chaîne, puis là, tu as tel autre plan avec deux fois plus de chaînes, et puis là, tu dis, ouais. J'aime le sport, il faut que je prenne toutes les chaînes avec le sport, t'sais. Après ça, j'aime les téléséries, il faut que je prenne toutes les chaînes avec téléséries. Ah, puis j'aime la culture, et puis ou l'histoire, je prends Historia. Puis là, finalement, tu dis, je veux rien manquer, je veux tout prendre. Et puis si tu n'as pas un petit peu de discipline, ben, tu prends tout, puis tu n'écouteras pas la moitié de ce que tu as pris. T'sais. On a de la difficulté à faire des choix aujourd'hui, parce que le monde nous offre tellement de choses. Et cette difficulté à faire des choix fait en sorte que notre vie est trop pleine, trop remplie. Ce matin, là, à l'église, à la radio, on écoutait quelqu'un qui a fait une étude sur le niveau de vie des couples aujourd'hui, puis les difficultés à joindre les deux bouts. Et en parlant un petit peu des résultats de son étude, il parlait aussi de cette difficulté qu'ont les gens à avoir du temps. C'est difficile d'avoir du temps, là. Le temps passe vite, on est pris pour toutes sortes de choses. Nous, cette semaine, on a fait refaire notre patio dehors. Bien nous en a pris, parce que le gars nous a dit que si on ne l'avait pas fait, on serait peut-être passé à travers pendant l'été. T'sais. Il y avait des planches pourries en dessous, puis on ne savait pas. Mais savez, vous avez un projet là. Enfin, c'est pas moi qui ai travaillé, mais c'était quand même notre projet. Alors le gars arrive à 7h du matin, on va voir qu'est-ce qu'il fait, bon, on va travailler un petit peu, puis là on revient, on regarde où est-ce que ça en est. T'sais. Ça nous accapare. Il y a tellement de choses qui nous accaparent. Est-ce que vous cherchez les choses d'en haut? Est-ce que vous mettez votre énergie pour chercher les choses d'en haut? C'est-à-dire, à un moment donné, dans la vie, il y a tellement d'options devant nous, que pour y arriver, il faut faire des choix. Vrai ? Il faut faire des choix quand vous choisissez une auto. Moi, j'aime pas ça, choisir une auto. Pour moi, une auto, ça me conduit du point A au point B, puis si c'est en bon état, c'est bon. Là, t'sais. Bon, je vous dis pas que, à l'occasion, j'ai conduit des voitures assez exceptionnelles. Là, c'est le fun, mais pas plus. T'sais. Mais il faut choisir. Il faut que tu choisisses. Vivre, c'est choisir. Et vivre dans la vie spirituelle, c'est choisir les choses spirituelles. C'est faire une distinction, c'est mettre certaines choses de côté pour pouvoir vivre L'évangile. Si tu ne fais pas de choix, tu ne pourras pas vivre l'évangile comme tu devrais le vivre. Alors le texte nous dit aussi au verset 2, « Tendez, tendez de toute votre pensée. » C'est-à-dire que tu mets tes efforts vers quelque chose. Tendre vers, c'est ça. Il y a un mouvement. Tu vas vers quelque chose. C'est... Va vers le Seigneur. Approche-toi des réalités spirituelles. C'est comme ça que tu vas les découvrir. C'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas vivre l'Évangile. Dans les versets 3 et 4, l'apôtre Paul va continuer sa description du statut du chrétien, de l'identité du chrétien, et va nous parler des conditions présentes et futures. Notre condition présente et future. Tout d'abord, le verset 3 nous dit, après avoir dit au verset 1er, vous êtes ressuscité, c'est fini. Il va y avoir une résurrection corporelle, hein, quand on va être auprès du Seigneur là. Mais spirituellement, nous sommes déjà ressuscités. Ben, l'apôtre Paul va aussi employer le passé au verset 3 en disant, vous êtes mort. C'est fini. Vous êtes mort. Vous n'avez pas à mourir de nouveau, là. L'apôtre Paul, dans Romains 6, le dit bien, hein. Vous êtes mort avec le Christ. Vous êtes ressuscité avec lui. Les termes employés sont au passé. Ce sont des expériences que nous symboliquement représentons par le baptême. C'est je suis mort, maintenant je suis devenu une nouvelle créature. Ça concerne notre statut. C'est-à-dire que nous étions enfants des ténèbres, maintenant nous sommes devenus enfants de lumière. On est mort au péché, c'est fini ça. C'est, il y a eu un changement dans notre statut, dans ce que nous sommes, dans notre nature. Est-ce que nous le comprenons ça? Si nous ne le comprenons pas, ça va être un peu difficile de vivre la vie nouvelle ou de vivre l'évangile. Le verset 3b nous dit aussi que notre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est intéressant. Ma vie chrétienne, c'est pas moi qui me présente devant Dieu en disant « Seigneur, regarde mes bonnes œuvres, regarde ce que je fais pour toi, regarde ma liste, et puis Seigneur, je m'attends à ce que tu m'approuves. » C'est pas ça notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, on se présente devant Dieu, mais on se présente devant Dieu en étant caché par le Christ. Si moi je me présente devant Dieu comme ça, j'ai aucun succès pour que le Seigneur m'accepte. Par contre, si je me présente et que Christ est devant moi, Dieu m'accepte en Christ. Ma vie est cachée en Christ. C'est ça la vie chrétienne. Vrai ? On parle du salut par grâce. C'est ça. C'est parce que je m'approche de Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors pour vivre l'Évangile, il faut aussi comprendre cela. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que notre vie, elle est cachée en Jésus-Christ. Est-ce que je suis meilleur que notre? Est-ce que vous êtes meilleur que notre? Absolument pas. Nous sommes tous des pécheurs. Aux yeux de Dieu, nous méritons tous sa colère. D'ailleurs, il va parler de la colère tout à l'heure, l'apôtre Paul, dans les versets qui suivent. Donc, notre vie, elle est vraiment cachée en Christ et nous sommes acceptés par Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est comme si tu présentes un de tes amis, puis tu dis, voilà, ça c'est mon ami, accepte-le comme si tu m'acceptais moi. Alors la personne à qui vous parlez ne connaît pas votre ami, mais vous connaît par exemple. Et vous êtes garant de votre ami, c'est pour ça que l'autre l'accepte. Mais Dieu nous accepte à cause de Jésus-Christ. Et c'est important de nous rappeler cela quand nous parlons de notre identité ou notre statut dans le Seigneur. Verset 4. Il est dit au verset 4, « Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. » Vous voyez, c'est Christ notre vie. C'est Christ, hein, c'est pas nous. Hein. C'est Christ notre vie. Et nous, un jour, lorsque le Seigneur va revenir, on va apparaître avec lui, mais dans la gloire. Ça va être encore mieux que si vous étiez, je ne sais pas moi, Suzuki qui vient de faire le tour du chapeau au Centre Bell. Là. Et que vous avez 20 000 personnes qui vous acclament, là, tu sais, qui vous glorifient. Tu sais. Vous vous rendez compte de la gloire de Dieu, ce que c'est? La gloire d'un Dieu créateur de tout l'univers, un Dieu qui est éternel, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est rempli de compassion et d'amour, un Dieu qui est célébré par toute sa création et toute sa créature, devant qui tout genou va fléchir, tu sais. Eh bien, le texte nous dit ici, vous aussi, vous allez apparaître avec lui dans la gloire. Waouh ! Je vais être participant à cette gloire-là. Est-ce que c'est pas une motivation, ça, à vivre l'Évangile? Est-ce que c'est pas une motivation à vivre notre nouvelle vie dès à présent, ici-bas, sur la terre? Alors, pour vivre l'Évangile, comprenons d'abord quel est notre statut, quelle est notre identité dans le Seigneur. Ensuite, pour vivre l'Évangile, l'apôtre nous dit dans les versets 5 à 9 que c'est important de rejeter notre ancienne vie. On est mort au péché, notre statut nouveau s'est fait. Mais on a encore des habitudes qui sont là, tu sais. Comme quand moi, je suis venu de la France, puis j'avais certaines habitudes, tu sais, des bonnes habitudes, des habitudes françaises, tu sais. Mais quand tu arrives ici, c'est pas pareil, tu sais. Donc, si tu veux vivre ici, il faut que tu changes d'habitude. Hein? Alors, j'ai changé d'habitude. De toute façon, d'avoir épousé une Québécoise, ça m'a pas mal aidé, je vous le dis, là. Et quand on parle de la vie chrétienne, l'apôtre Paul nous dit aussi, il faut rejeter certains éléments qui viennent de l'ancienne vie, mais qui ne caractérisent plus qui vous êtes maintenant. Versets 5 à 9. On va lire ensemble. Faites donc mourir. Vous voyez le contraste, hein? On est déjà mort, puis faites mourir. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la... Ah, il y en a un qui n'est pas allé au mariage hier. C'est vrai? Vous êtes allé au mariage hier? Non, mais je le sais. Vous répondez, vous suivez, c'est bon ça. Qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ces agissements. Alors on pourrait passer du temps sur toutes ces termes qui sont employés ici, hein. Mais moi je vous suggère de méditer ces passages-là, de méditer ces expressions-là, tu sais. Parce que si je ne les identifie pas dans ma vie, je ne peux pas les faire mourir. Alors, faites donc mourir. Qu'est-ce qu'on fait mourir? On fait mourir les péchés qui caractérisaient notre vie passée. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent dans le péché. Je connais quelqu'un d'assez près qui est parti dans une église à Montréal, qui vivait avec son chum, qui s'est fait baptiser, qui vivait encore avec son chum, qui a été reçu dans l'église et qui servait dans l'église, mais qui vivait aussi avec son chum. Et puis après 2 ou 3 ans, ils se sont séparés. Puis là, on se dit, bon, peut-être qu'elle va comprendre ce que la Bible dit sur la sexualité, sur la vie de famille, la vie de couple, etc. Mais non, elle rencontre quelqu'un d'autre qui n'est pas chrétien, puis elle s'accote avec. Elle continue à aller à l'église. Elle continue à servir à l'église. Est-ce que c'est ça, vivre l'Évangile? Alors, je ne veux pas accuser quelqu'un plus que les autres. Parce que nous qui sommes peut-être à l'église, nous péchons par la parole. Ici, il est question dans ces textes aussi de vous savez, quand on parle les uns sur les autres, là, on se ment les uns aux autres, on dit des mauvaises choses sur les autres, on colporte des fausses vérités sur les autres. Vous savez, on peut très bien être à l'église, fréquenter une église, et puis ne pas vivre l'Évangile dans un autre domaine que celui que je viens de mentionner. Alors, au verset 5, Paul décrit ses péchés. Puis, j'ai l'impression que souvent, en tant que chrétien, on passe allègrement sur ces listes-là. Listes qui ne sont pas exhaustives, hein. Parce qu'il y a bien d'autres péchés qui ne sont pas mentionnés dans ces listes-là. Puis, on passe allègrement par-dessus, puis on pense que notre vie chrétienne va bien, parce que ça va bien dans notre vie, parce qu'on a un bon travail, on a une bonne relation avec notre entourage. Puis, quand on se lève le matin, on est de bonne humeur. Donc, on a l'impression, parce qu'on est de bonne humeur, qu'on est en règle devant Dieu. C'est pas vrai, ça. Tu es en règle devant Dieu si tu rejettes ce qui caractérisait ta vie passée. Là, tu vas être en règle devant Dieu si tu rejettes ce qui attirait la colère de Dieu. C'est pas parce que tu es chrétien maintenant que tu peux accomplir tous les péchés que tu veux en te disant j'appartiens à Dieu, je ne serai plus l'objet de sa colère. Ces péchés suscitent la colère de Dieu. Et au minimum, attristent le Saint-Esprit. Vous savez quand même, il y a des serviteurs de Dieu qui ont suscité la colère de Dieu à cause de leur comportement, même s'ils étaient serviteurs de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans les versets 8 à 9, il nous est dit « Débarrassez-vous de tout cela. » Colère, irritation, méchanceté, insulte, propos grossiers, etc. Ne vous montez pas les uns aux autres. Vous savez, souvent, quand on se met en colère, quand on est irrité, quand on insulte quelqu'un, bien souvent, nous nous justifions de nos propos. Oh, ben là, j'ai pas été très très gentil avec ma femme et mes enfants ce soir en rentrant du travail parce que j'ai eu une horrible journée. Si tu savais la journée que j'ai eue, c'est terrible. Puis du moment que tu as fini de dire ces mots-là, eh ben tu es en paix parce que tu as trouvé une justification à ton comportement. Au lieu de t'excuser, au lieu d'admettre que si tu n'étais pas pécheur, quel que soit ce qui t'arrive, tu aurais un bon comportement comme le Seigneur, n'est-ce pas? Ben, du moment que tu as trouvé une excuse, eh bien, tu justifies ton péché et tu le tolères dans ta vie. Et si tu le tolères, eh bien, tu ne t'en débarrasses pas. Est-ce que c'est ça, vivre l'Évangile? En tous les cas, si vos enfants vous voient arriver comme ça, du travail, pas mal énervés, puis que vous manquez de patience envers eux, vos enfants, ils ne vous verront pas vivre l'Évangile. Si vos enfants ne vous voient pas vivre l'Évangile, est-ce que ça va leur donner le goût de vivre l'Évangile? Est-ce que ça va leur donner envie de s'approcher du Seigneur et de lui demander de changer leur vie? Ça peut être les enfants, mais ça peut être ton frère, ta soeur, tes parents qui ne sont pas chrétiens, ça peut être tes voisins, tes amis. Tu sais, est-ce que vraiment tu te débarrasses de toutes ces choses-là pour vivre ta nouvelle vie, afin que les gens te voient marcher en nouveauté de vie et qu'eux puissent aussi désirer avoir ce que tu as et ce qu'eux n'ont pas? Donc, vis-tu l'Évangile? Vivons-nous l'Évangile? Pour cela, il faut comprendre notre statut, notre identité dans le Seigneur. Pour cela, il faut aussi rejeter ce qui caractérisait notre ancienne vie. Mais pour cela, eh bien, l'apôtre Paul va nous décrire ce que c'est que vivre l'Évangile, pour un peu nous donner le goût, tu sais, nous donner envie. Non, mais c'est quoi vivre l'Évangile? C'est quoi vivre cette nouvelle vie? Versets 10 et 11. Vive l'Évangile, on va voir ça en deux parties. Excusez-moi, j'ai oublié d'avancer. On va voir ça en deux parties. D'abord les versets 10 et 11 et ensuite 12 à 17. Donc, lisons versets 10 et 11. Et vous, moi qui parle à vous là, qui veulent vivre l'Évangile, et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau, ou de l'être nouveau, hein? L'homme dans le sens de homme et femme. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. C'est un petit peu différent que Louis II. Hein. Pour ce qu'il concerne, cet homme nouveau, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout en tous. Vous voyez la primauté de Christ dans nos relations les uns avec les autres. Alors, vive l'Évangile, qu'est-ce que c'est? Comment Paul veut nous stimuler? Eh bien, il nous dit que vive l'Évangile, c'est vivre l'être nouveau que tu es devenu. C'est ça. Et le verset 10 nous dit que cet être nouveau se renouvelle. Hein, Romains 12, versets 1 et 2, hein, nous parle du renouvellement de l'intelligence. Notre vie chrétienne, c'est une vie de renouvellement. On a encore des vieilles habitudes, mais on se renouvelle. On lutte contre les vieilles habitudes. On les chasse. On grandit dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est un renouveau. On ne peut pas vivre la vie chrétienne et se dire, là, je m'arrête, je suis arrivé. C'est impossible. Que tu vives jusqu'à 95 ans, ou que tu rejoignes le Seigneur plus tôt, il y a toujours un renouveau, jusqu'au moment où le Seigneur vient te chercher. Est-ce que tu vis ce genre de vie-là? Est-ce que tu as l'impression que ta vie chrétienne, c'est une vie de renouveau dans le Seigneur? En tous les cas, c'est ça qui fait en sorte que nous ne tomberons pas dans une routine, mais qu'au contraire, nous allons aller de victoire en victoire. Nous allons continuellement grandir dans le Seigneur Même si nous n'arriverons pas à la perfection ici-bas, nous allons avoir cette satisfaction que dans notre vie chrétienne, nous grandissons, nous avançons. Où est-ce que tu en es dans ta vie chrétienne? Tu as l'impression que ça stagne un petit peu, là? Où tu ressens le besoin de quelque chose de plus? Est-ce que tu as soif de quelque chose de plus? Mais l'apôtre Paul nous dit, si tu veux vivre l'Évangile, il faut que ta vie chrétienne se renouvelle jour après jour. Il faut que ton être intérieur se renouvelle jour après jour. Et Paul va donner deux raisons. La première raison, c'est pour être à l'image de son Créateur. Regardez le verset 10. Cet être nouveau se renouvelle pour être l'image de son Créateur. Vivre l'Évangile, c'est de vivre à l'image de notre Créateur. Puis l'image a été corrompue par le péché, n'est-ce pas? Mais elle a besoin, cette image, d'être affinée de jour en jour pour qu'on ressemble davantage à Dieu. C'est ça, vive l'Évangile. Est-ce que les gens qui te regardent se disent « Ah, Philippe, là, on voit que dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe. On voit que dans sa vie, là, il y a Dieu qui fait quelque chose. Je vois dans sa vie qu'il renouvelle son être intérieur. » Oh, peut-être ils ne vont pas le dire en employant ces mots théologiques-là, hein, comme nous, on a l'habitude. Mais ils vont s'apercevoir de quelque chose. Ils vont réaliser que tu vis l'Évangile. Et que l'Évangile, ce n'est pas juste une philosophie à laquelle tu adhères, mais que l'Évangile, c'est un changement de l'intérieur. C'est Dieu qui vient habiter en toi et qui te change et te transforme. Et la deuxième raison pour laquelle Paul dit que la vie de l'être nouveau se renouvelle, c'est parce que quand notre vie se renouvelle, ben, nous grandissons davantage dans la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, ce n'est pas passer des examens en théologie systématique, puis d'avoir un A+ à chaque fois. Et là, tu dis, ah, je le connais, Dieu. Non, la connaissance de Dieu, c'est de vivre avec lui une vie transformée de jour en jour. C'est ça la connaissance de Dieu. Et plus notre vie intérieure, notre être intérieur se transforme, plus nous connaissons Dieu. Nous le connaissons parce que nous vivons avec lui. Et parce que nous vivons avec lui, nous vivons l'Évangile. Et ça a un impact sur les gens autour de nous. Verset 11. L'apôtre Paul, en décrivant cette nouvelle vie, cet évangile, il nous parle d'une nouvelle perspective au verset 11. Vivre l'évangile, c'est de comprendre cette nouvelle perspective. Il n'y a plus juif, non juif, circoncis, incirconcis, etc. L'apôtre Paul nous fait une description de pères, vous savez, de deux mots qui vont ensemble. Et chacune de ces paires exprime des extrêmes. Soit tu es juif, soit tu es non-juif. Un juif n'entrait pas dans la maison d'un non-juif. Éphésiens dit qu'il y avait un mur de séparation entre les juifs et les non-juifs. Il a fallu que le Seigneur mette de la dynamite là-dedans par son sacrifice pour faire sauter les murs de séparation. Il n'y a plus de séparation. Et il dit, c'est la même chose avec les circoncis, les incirconcis, les étrangers, les barbares. Les esclaves, les hommes libres, vous voyez les extrémités, là, esclaves, hommes libres. Dieu est venu pour faire en sorte que tout ce qui... Pour faire en sorte de réunir les extrémités, d'abolir ce qui divisait, pour que nous puissions être un dans le Christ. Il n'y a plus que le Christ. Il y a seulement le Christ. Il n'y a plus de différence. Plus de différence de race, de rituel, de statut social. Nous sommes... en Christ, c'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui, hein, ça marche tout? Ah voilà, il faut que j'amène la souris sur l'écran. Et donc, c'est lui, donc, nous dit Romains 13 et puis Galates, c'est lui qui est en tous, il est en chacun d'entre nous. Deuxième bloc pour décrire cette vie de l'Évangile, nous le retrouvons dans les versets 12 à 17 et nous terminerons avec cette section-là. Verset 12. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté. » À souligner que ce n'est pas simplement de bonté, d'ardente bonté. Ça chauffe, cette bonté-là. « Ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. » Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence, Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Hein ? On a une belle apothéose là, dans ces quelques versets, notamment au verset 17. Alors, Paul va continuer à décrire comment vivre l'Évangile. Tu sais. Il va dire, si tu vis l'Évangile, tu vas comprendre que l'amour, verset 14, c'est le lien par excellence. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Alors, je vais mettre les trois éléments à l'écran. Comme ça sera plus facile pour vous. Les raisons de ces vertus. Pourquoi on nous parle ici de ces vertus ardentes, bonté, bienveillance, humilité, douceur, patience, le pardon mutuel. Vous savez, il y a des listes de péchés que Paul énumère dans ses épîtres, mais il y a des listes de vertus aussi. Souvent, nous ignorons les listes qui décrivent les péchés, parce que nous avons peut-être un peu trop l'habitude de pécher, puis on ne veut pas trop lire ces listes-là. Mais souvent, nous ignorons aussi les listes des vertus, n'est-ce pas ? Mais c'est bien de remplacer un péché par une vertu. Tu sais ? Et les raisons de ces vertus sont exprimées au verset 12a. « Puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime. » Ah, nous faisons partie d'un peuple saint. Et c'est parce que nous faisons partie d'un peuple saint et que Dieu nous aime, que Dieu veut que nous vivions ses vertus. Et le verset 13 amène quelque chose de très intéressant, c'est que ces vertus, elles se vivent dans les relations interpersonnelles. Tu ne vis pas tes vertus chrétiennes seulement quand tu lis ton texte biblique tout seul chez toi. Ah, bien sûr, tu peux avoir des doutes, puis tu peux par la foi surmonter des doutes. C'est une vertu chrétienne d'exercer sa foi. Mais dans la plupart des cas, les vertus chrétiennes s'exercent en communauté. Tu ne peux pas être un chrétien Robinson Crusoe qui vit les vertus chrétiennes sur ton île isolée, là, tu sais. Et premièrement, nous vivons nos vertus chrétiennes dans l'Église. Nous sommes encouragés les uns les autres à vivre ces vertus chrétiennes dans l'Église, à nous pardonner dans l'Église. C'est dans l'Église que nous sommes confrontés à des gens qui ne sont pas comme nous. Et grâce à Dieu, ils ne sont pas tous comme nous. Si tout le monde était comme moi, ma femme, elle serait désespérée, je vous le dis. Mais c'est dans l'Église que nous sommes confrontés à des gens différents, qui font des choses différemment, qui ont des cultures différentes, qui ont des habitudes, des tempéraments, des caractères différents. Et c'est quand on est confronté les uns aux autres que nous pouvons vivre l'amour. C'est tellement facile d'aimer quelqu'un avec qui tu as déjà des atomes crochus, tu sais. Tu n'as aucune difficulté, tu sais. On dirait que naturellement vous aimez, tu sais. Mais ce n'est pas ça la vertu chrétienne. La vertu chrétienne, c'est aimer quand tu n'as aucune raison d'aimer quelqu'un, tu sais. La seule raison, c'est que c'est ton frère dans le Seigneur. La seule raison, c'est que vous êtes tous des enfants de Dieu au sein de l'Église locale. Et ce n'est pas simplement aussi avec les chrétiens, mais c'est aussi avec les non-chrétiens. Tu sais. Quand il est question de ce type de vertu, Paul veut que nous les pratiquions aussi envers les non-chrétiens. Tu sais. Quand les non-chrétiens te blessent, quand quelqu'un te fait du mal, que tu puisses pardonner, que tu puisses être rempli d'un amour ardent, d'une grande bonté, tu sais, qui dépasse tes propres blessures, parce que tu veux mettre en pratique ces vertus décrites dans ces passages. Alors, je pourrais continuer longuement, mais je pense que c'est important de méditer sur ces versets. Regardez ce que dit le texte quand même. Hein. Revêtez-vous. Revêtez-vous. Je ne sais pas de comment vous habiller quand vous sortez du lit. Moi, quand j'y pense la veille, j'ai ma robe de chambre. Hop, je prends ma robe de chambre. T'sais. Ou des fois, ben, je m'habille tout de suite. T'sais. Mais les vertus chrétiennes, c'est la même chose. Tu enfiles tes vertus chrétiennes. Tu enfiles l'amour, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience. J'ai un petit-fils qui a un TDAH. Puis je vous dis que les journées sont parfois un petit peu rock'n'roll, surtout la fin de la journée, quand les médicaments font plus effet, là, tu sais. Puis tu te lèves le matin, tu te dis, ouais, peut-être ça va être une journée difficile, cette journée-là, hier soir, ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce que tu te dis en tant que chrétien? Tu dis, je veux me revêtir de patience. Je veux me revêtir d'amour. Je veux pouvoir aimer cet enfant-là. Et je veux pouvoir en prendre soin. Je veux pouvoir l'éduquer. Je veux pouvoir être un témoignage pour lui dans sa propre vie. Mais tu prends la décision. C'est ça, se revêtir, s'habiller de toutes ces vertus chrétiennes. C'est que tu prends la décision d'exercer ces vertus parce que tu sais que la journée risque d'être difficile, mais tu veux vivre l'Évangile. Donc tu veux refléter ces vertus dans ta vie. Le texte termine par un autre aspect de cette vie chrétienne, ce sont les fruits. Parfois on parle tellement de la grâce qu'on oublie les fruits. Mais c'est intéressant parce que quand on vieillit, n'est-ce pas Luc? Je le prends comme exemple. Quand on vieillit, on se dit un jour on va se présenter devant le Seigneur et puis le Seigneur il va regarder nos œuvres, tu sais. Même si je suis sauvé par grâce, il va regarder nos œuvres. Tu sais, quand on a 20 ans, 30 ans, on ne pense pas trop à nos œuvres. Mais vous pouvez en accumuler pas mal d'œuvres pour le Seigneur. Non pas pour avoir un scrapbook avec toute la liste de vos œuvres, puis les présenter à Dieu en disant à Dieu, ben écoute Seigneur, là, tu peux m'accepter, regarde toutes les belles œuvres. Non, non, pas du tout. Parce que nos œuvres, c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et si nous les accomplissons, c'est par grâce. Mais c'est quand même notre responsabilité d'accomplir des fruits. Et une caractéristique de quelqu'un qui vit l'Évangile, c'est quelqu'un qui produit du fruit. Quels sont les fruits que tu produis dans ta vie? Quels sont les fruits que tu produis là? Si on demandait de prendre une feuille de papier et puis d'écrire là, qu'est-ce que tu marquerais? Ah non, mais moi je suis humble. Comme dirait l'autre, je suis humble et fier de l'être. Non, non, mais en toute humilité là, toute humilité, parce qu'on peut... On peut connaître les fruits que nous accomplissons pour Dieu, mais en toute humilité. En disant à Dieu, ces fruits que j'accomplis pour toi, c'est par ta grâce. C'est toi qui les as préparés. C'est toi qui me donnes les capacités. C'est toi qui me permets de les accomplir. Mais ces fruits-là, il faut y penser tout de même dans notre vie chrétienne. Est-ce que nous portons du fruit ou nous n'en portons pas? Est-ce que nous mettons tellement l'accent sur la théologie de la grâce que les fruits secondaires, tout compte par grâce, c'est? Ou est-ce que nous voulons garder un équilibre entre ces vérités bibliques? Alors le premier fruit, c'est la reconnaissance. Vous le voyez dans le titre ici. Le passage parle trois fois de reconnaissance, notamment au verset 15, la soyez reconnaissant. Donc la reconnaissance est un fruit. Vivre dans la reconnaissance, c'est un fruit. Même si tu es dans l'épreuve, même si tu es dans les difficultés, est-ce que tu es reconnaissant? Si tu as une crevaison sur la 40, en pleine circulation, là, qu'est-ce que tu dis? C'est intéressant ce qu'on dit, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que notre langage devient très châtié, tu sais? Ou est-ce qu'on est là dans un problème, difficulté, pour dire Seigneur, je te remercie, parce que je suis privilégié, tu sais? Tu me permets d'avoir une voiture. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on est privilégié. Et la reconnaissance, elle se manifeste davantage dans l'épreuve que quand tout va bien et que tout roule. Alors, les trois éléments que j'ai mentionnés, c'est d'abord la paix. La paix dans l'Église. Oups, je ne sais pas si je peux revenir en arrière là. Est-ce que ce serait là? Voilà. La paix dans l'Église, la paix dans nos relations les uns avec les autres. C'est. Le deuxième élément, deuxième fruit, c'est de se... que la parole de Dieu demeure richement en nous. On dit aujourd'hui que les chrétiens connaissent de moins en moins la parole de Dieu. Par les chants, les hymnes, etc. Est-ce que vous étudiez la parole de Dieu? Est-ce que vous essayez de mieux comprendre la parole de Dieu? Est-ce que vous essayez de vous enraciner, comme dit le chapitre 2, dans la parole de Dieu? Et le dernier fruit, au verset 17, c'est l'apothéose de ce texte. C'est que dans tout ce que vous pouvez faire, dire ou penser, faites tout au nom du Seigneur Jésus. T'as envie d'exploser, là. Ah, tu peux avoir toutes sortes de raisons. T'as envie d'exploser. Est-ce que tu penses que tu peux exploser au nom du Seigneur Jésus? Puis commencer à engueuler les autres au nom du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus ferait à ta place? Tu sais, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses, fais-le, agis au nom du Seigneur Jésus, tout en étant reconnaissant. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce défi que tu nous lances de vivre l'Évangile. Peut-être que ce matin, Seigneur, cet après-midi, nous voulons confesser que nous ne vivons pas assez l'Évangile et que nous avons besoin d'apprendre à mieux vivre l'Évangile pour pouvoir te glorifier davantage, pour pouvoir être davantage la lumière du monde. Seigneur, touche notre cœur, nous t'en prions. Pardonne-nous aussi, Seigneur, nous t'en prions. Amen.